lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. C'était l'objet de la proposition de loi dite « loi Yadan », portée depuis 2024 par la députée Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, circonscription comprenant Israël, les territoires palestiniens et d'autres pays méditerranéens. La proposition de loi visait à donner un cadre juridique à une nouvelle définition de l'antisémitisme adoptée dans une résolution en 2021 par le Parlement qui, pour le dire vite, englobait la négation de l'existence de l'État d'Israël et le fait de désigner les Juifs pour collectivement responsables de la politique d'Israël. La proposition de loi Yadan a provoqué une vive contestation et même une pétition ayant atteint plus de 700 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Ses détracteurs lui reprochant de criminaliser la solidarité avec la cause palestinienne, mais aussi de porter atteinte à la liberté d'expression. Elle a finalement été retirée en avril 2026, peu avant son passage devant les députés, mais le gouvernement a promis de la remplacer par un projet de loi qui devrait être porté par la députée Aurore Berger et présenté en juin. Cet épisode a ravivé des tensions douloureuses en France, certaines voix ayant dénoncé des attaques déplacées contre la proposition de loi, alors même que celle-ci ne mentionnait pas nominément Israël, se contentant en quelque sorte d'interdire la négation d'un État reconnu par la France. D'autres y voyant un nouvel épisode de l'instrumentalisation de l'antisémitisme afin de servir la politique israélienne. Parmi ces voix critiques, il y a des voix juives comme celle du collectif Tzedek, collectif juif décolonial antifasciste, anti-sioniste, créé en 2023, dont nous allons présenter un des membres cofondateurs qui est notre invité de ce soir. Les voix du crépuscule. Anthropologie et sciences sociales sur le 93.9 FM. Une émission de la Compagnie des rêves lucides, coproduite par Radio Campus Paris. Un jeudi sur 4, à 20h. Yonatan Rufzan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes militant et cofondateur de Tzedek, collectif de juifs et juives antifascistes, décoloniaux et décoloniales, luttant contre le racisme d'État en France, pour la fin de l'apartheid et de l'occupation en Palestine, et contre l'antisémitisme et son instrumentalisation. Tzedek est en rupture avec les discours promulgué par les institutions juives censées représenter les juifs et par la majeure partie des collectifs juifs antiracistes français. J'ajoute que vous avez écrit ou coécrit un livre qui est sorti en février 2026 qui s'appelle « Lutter en rupture, lutter en solidarité ».
Absolument.
Alors, Yonatan Rufzan, 2023, donc la création de Tzedek, c'est très récent. Il existe déjà des collectifs juifs antisionistes, comme par exemple l'UJFP, l'Union des Juifs juives français pour la paix. Quel était le besoin d'un nouveau collectif ?
C'est une excellente question. Effectivement, on va bientôt fêter nos 3 ans, puisqu'on avait choisi d'apparaître pour la première fois dans le cadre des manifestations qui commémorent le meurtre de Clément Méric par des néo-nazis. C'était le 10 juin 2023, plus exactement, et ça correspondait aux 10 ans de sa mort. La différence avec l'Union juive française pour la paix, elle est sur plusieurs plans. Je tiens à préciser que parmi les personnes qui ont confondé Tzedek, on en est certaines et certains à en être issu. Moi, je suis toujours adhérent à l'UJFP. La différence fondamentale, c'est que déjà, on est une organisation non mixité juive, c'est-à-dire qu'il n'y a que des personnes juives qui constituent CEDEC. Le deuxième point, c'est que comme son nom l'indique, l'Union juive française pour la paix est plutôt focalisée de base sur la question palestinienne, ce qui ne l'a pas empêché de militer sur des terrains qui sont aussi des nôtres, hein, comme la lutte contre l'islamophobie, comme le fait d'être aux côtés des familles de victimes endeuillées par les violences d'État. Mais disons que nous, notre centralité politique, c'est de donner une voix juive antiraciste depuis le pays où on habite. Alors certes, l'opposition au sionisme en tant que juif et juif des coloniaux et qui plus est... Et qui plus est, en fait, vu le discours ambiant, fait partie de notre combat. Mais de base, on ne voulait pas se centraliser. On ne pensait pas que ça allait occuper autant de place. Le fait est qu'entre-temps, le 7 octobre est arrivé, qu'il y a un génocide qui se déroule. Donc, ça fait partie de l'ordre de nos priorités. Mais ça ne nous empêche pas d'aller manifester aux côtés, par exemple, du peuple kanak, d'avoir une dimension et des velléités internationalistes, de pointer du doigt le fait qu'aujourd'hui, deux des manifestations les plus violentes du racisme d'État sont l'islamophobie et la traque aux exilés. Mais disons que nos différences de ligne politique avec l'UJFP sont infimes. Celles avec d'autres collectifs et organisations juives de gauche, beaucoup plus, notamment sur la question du sionisme.
Oui. Alors, un mot important dans la définition de TZEDEC semble être le mot décolonial. Ouais. Comment le définissez-vous ?
Bah, moi, je pense que le décolonial, c'est prendre à bras-le-corps les différents rapports de domination qui ont façonné la planète de manière structurelle, à savoir le racisme, l'impérialisme et le capitalisme, qui, si on les additionne, sert quand même à expliquer un certain nombre de principes inégalitaires, dont notamment le concept de la race, et que la décolonialité, c'est justement de vouloir remettre en cause cet ordre établi, de vouloir décentrer l'Occident dans le sens où aujourd'hui l'histoire est extrêmement eurocentrée et occidentalocentrée en laissant malheureusement très peu de part au reste du monde. C'est vouloir affronter un concept de civilisation judéo-chrétienne où en plus du jour au lendemain les juifs seraient considérés comme étant à l'avant-garde d'une civilisation qui serait soi-disant plus développée que les autres, qui serait considéré comme archaïque. Et le décolonial, en fait, permet aussi justement d'avoir une autre vision de l'histoire, qui pour moi commence en 1492 avec l'expulsion des juifs et des juives avec la fin du processus de reconquête, dont l'objectif est l'éradication totale de l'islam et du judaïsme d'un côté, de l'autre la découverte malencontreuse des populations autochtones et le début de la colonisation.
1492, expulsion des juifs et des juives d'Espagne, hein, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait, l'Inquisition. Ouais. Et l'Inquisition qui s'ensuit, puis... De cette période, à celle du 19e siècle, on commence à théoriser la race d'abord sur des préceptes pseudo-biologiques, enfin en tout cas sur des préceptes pseudo-scientifiques, d'abord par les aspects biologiques, puis civilisationnels, puis conspiratoires, dont fait partie intégrante à la fois l'antisémitisme et la conception du sionisme. Entre ces 400 ans, en fait, se suit l'avènement de la modernité capitaliste avec l'extractivisme, avec le pillage des ressources, avec la justification que l'humanité de certains êtres humains est absolument est nié, puis l'avènement des États-nations. C'est-à-dire que pour nous, la décolonialité, ça permet justement tout simplement de mieux comprendre l'histoire et d'avoir une lecture du monde qui n'est certes pas hégémonique, mais qui englobe l'intégralité du peuple. Et quand on est dans une vision internationaliste, comme c'est le cas pour nous chez TZEDEC, je pense qu'on est obligé de prendre ces facteurs avec considération.
Alors, vous avez parlé du 19e siècle, de la construction de la race, donc du racisme, en tout cas une construction scientifique du racisme. Justement, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur la question du racisme. On a l'impression aujourd'hui que l'antisémitisme et le racisme, ou les autres racismes, sont à traiter un peu à part.
Oui, absolument. On parle déjà d'antisémitisme, de racisme et de xénophobie, comme si la première et la troisième de ces catégories ne faisaient pas intrinsèquement partie de la deuxième, ce qui est pour moi déjà une erreur d'appréciation politique. L'antisémitisme, quand il est conceptualisé, ne serait-ce que étymologiquement, par le terme de sémite, je rappelle que les sémites, ça n'existe pas en termes de peuple, il n'y a pas de peuple sémite, il y a différentes populations qui parlent des langues sémites, comme c'était le cas de l'hébreu, de l'arabe et de l'araméen, mais qu'en fait, ce concept même de racialisation émane d'un processus qui a notamment été porté par des personnes comme Ernest Renan, dans lequel on a regroupé un certain nombre de populations pour les opposer à ceux qui étaient considérés comme des populations ariennes, qui parlaient des langues indo-européennes, donc je vous laisse imaginer auprès de qui ça aura une influence quelques décennies plus tard, et le terme d'antisémitisme, lorsqu'il apparaît, c'est par des personnes comme Willem Maher ou comme Drummond en France, pour revendiquer sa haine du juif, mais derrière, il y a toute une construction qui est liée à l'histoire des races, dont pour moi, on ne peut pas exceptionnaliser l'antisémitisme. Certes, l'antisémitisme a des caractéristiques qui lui sont propres, comme c'est le cas de chaque forme de racisme. La négrophobie, c'est pas la même chose que le racisme anti-asiatique, et l'islamophobie et l'antisémitisme, même s'il y a un certain nombre d'attraits communs par l'aspect pseudo-civilisationnel ou conspiratoire, et dans la manière de fabriquer un ennemi intérieur avec des alliés supposés, hein, ce qu'on retrouve encore aujourd'hui avec la désignation de l'immigration et de la gauche comme alliés de l'islam, comme on le faisait avant à l'époque du Front Populaire et même dans les années qui ont précédé. Du coup, chaque racisme a ses mécanismes, mais ils sont quand même héritiers d'une histoire qui les rassemble. Et je pense qu'on aurait tort d'opposer l'antisémitisme aux autres formes de racisme, à moins de tous les nommer. Ce qui pourrait être une possibilité aussi.
Et je me permets un petit détour.
Ouais,
je ne sais pas si vous allez vouloir répondre à cette question ou pas. Récemment, il y a eu une résolution aux Nations Unies pour désigner la traite négrière, je mets le mot entre guillemets, je ne sais plus si c'est le mot exact qui était utilisé, traite des Noirs, comme le plus grand crime contre l'humanité dans l'histoire. Un certain nombre de pays européens se sont abstenus, dont la France, en disant qu'on ne pouvait pas hiérarchiser les crimes contre l'humanité. Je me demande si c'est pas une façon aussi, cette résolution de relativiser la Shoah en disant que la traite des Noirs a fait plus de victimes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une concurrence qui est créée par cette résolution? Est-ce que vous regrettez que la France ne l'ait pas votée?
C'est une excellente question. Alors, on n'a pas un positionnement propre chez Tzedek, donc je vais parler comme mon nom là-dessus. Néanmoins, je pense que c'est une avancée. C'est une avancée majeure puisque, à ma connaissance, il n'y a pas une population qui a été racialisée littéralement, pour citer le camarade Olivier Marbeuf, dont je recommande les travaux, en matière fongible, hein, si vous voulez, l'idée d'être un meuble humain où l'être humain n'est même plus du bétail, puisque la condition des esclaves, on faisait vraiment de la matière littéralement jetable sur un laps de temps aussi large. Moi, la question de dire pire ou quoi que ce soit à titre personnel, je pense pas que ce soit la vision qu'il faille avoir, dans le sens où je suis contre la hiérarchisation. Néanmoins, la sous-traitance du sujet colonial déjà comme génocide, étant donné que la traite n'est même pas reconnue comme un génocide à part entière, comme c'est le cas de quasiment tout ce qui est lié à la colonisation, hein, je veux dire, il n'y a aucun génocide colonial qui est reconnu en tant que tel, alors que pour moi, c'est même pas une question au-delà de celle de l'intention, je veux dire, les populations autochtones qui ont été décimées à 90% du continent américain à l'Australie, c'est un génocide. Mais derrière, il y a quand même l'idée, en fait, peut-être d'obtenir des réparations, et le fait est que l'Europe, qui justement se prévaut de ne pas vouloir entretenir des concurrences mémorielles, ne fait actuellement rien, justement pour essayer d'avoir un récit commun. L'idée, c'est pas forcément de faire un concours à la victimisation, à la souffrance, mais de se servir de la mémoire pour en faire une arme de dissuasion mémorielle. Et de mon côté, moi, j'aurais aimé que l'Europe se situe là-dessus, parce que c'est quand même une main tendue vers ce qu'elle représente de pire. On rappelle que la traite, c'est pas seulement les pays qui ont des colonies colonies qui en ont tiré profit. Hein. Un pays comme la Suisse ou comme l'Autriche, qui n'a jamais eu de colonie, a pu avoir des personnalités issues de sa bourgeoisie ou de son aristocratie qui tiraient profit des comptoirs et qui même étaient présentes sur place. Et que là, la richesse de l'Europe, enfin du monde occidental aujourd'hui, est l'héritier direct de ces 400 ans d'un processus qui est peut-être encore plus abject, enfin, même si c'est déjà abject quand on parle de bestialisation, des populations afro-descendantes. Et je pense que c'est un rendez-vous qu'elle a raté avec l'histoire, même si moi, le concept de pire ou quoi que ce soit, à titre personnel, c'est pas forcément quelque chose qui me parle. Je pense que l'aspect symbolique aurait été très très fort, et aurait été très fort, et d'autant plus que quand on parle justement de transformation en matière fongible, à ma connaissance, il y a quasiment aucune forme de racisme qui a reproduit ça à l'encontre d'une population, sauf une, qui nous concerne directement, c'est les populations juives, le petit laps de temps où elles ont été exterminées méthodiquement et de manière industrielle, en étant même recyclées sous forme de savon, dont les cendres ont même servi à construire les routes qui allaient sur les fours crématoires, sauf que dans notre cas, il y a eu une reconnaissance qui n'est absolument pas équivalente avec les autres. Donc moi je pense que ce positionnement des États occidentaux en dit long en fait sur une forme de déni, et que eux utilisent l'argument de la concurrence mémorielle pour blanchir au sens propre et figuré du terme la conscience européenne. Je pense que c'est un affront supplémentaire qui n'aide pas justement à comprendre l'histoire.
Oui, sachant qu'effectivement on peut dire que l'Europe pratique cette concurrence mémorielle, quoi. Je reviens sur TEDx et sur ce que vous dites dans le manifeste de TEDx. Vous accusez l'État français de créer les conditions de votre disparition. Alors, ça paraît pas évident comme ça.
Bien sûr.
On va parler tout à l'heure de la loi Adam, de la proposition de loi Adam que l'État français a, le gouvernement en tout cas, a poussé. Qui est censé protéger les juifs contre l'antisémitisme. Pourquoi dites-vous que l'État crée les conditions de votre disparition ?
Alors, quand on parle de notre disparition, déjà, je pense que c'est important de savoir d'où est-ce qu'on se situe. En tant que juive et juif, ce qu'on essaie de porter, c'est un héritage révolutionnaire et un projet d'émancipation depuis nos judéités, peu importe le degré de sécularisation ou de pratique religieuse. Et c'est la diversité et la beauté des mondes de juifs et juifs, et le refus justement d'être un bloc monolithique dans lequel, en fait, autour duquel toutes les identités juives pourraient se rassembler, à savoir le sionisme et le soutien à l'État d'Israël. Et dans notre cas, il y a une dimension qui est particulière, c'est qu'en fait, les personnes qui nous ont directement influencés, bon, parmi des personnes juives, hein, même s'il n'y a pas que des personnes juives, sont des personnes qui étaient opposées à la colonisation, au racisme, qui sont pour certaines des résistantes. Moi, je pense par exemple au Bund, hein, qui était l'un des plus grands mouvements ouvriers d'Europe de l'Est, dont on ne sait pas. Malheureusement pas grand chose, qui était hostile à la question du sionisme justement par mépris du nationalisme, par opposition à la bourgeoisie, en considérant que c'était un projet qui allait émanciper personne, mais aussi par refus en fait de quitter les pays dans lesquels ils grandissaient, en voulant aussi revendiquer une culture yiddish qui était très forte, hein. On parle d'une organisation politique dont les scores aux élections, une organisation communautaire dont les scores aux élections avoisinaient les 20% à la mairie de Cracovie. C'est des scores très très importants aux pays baltes. On revendique l'héritage politique, par exemple, des personnes qui bénéficiaient du statut de blanc et qui se sont battues aux côtés de Nelson Mandela contre l'apartheid, qui étaient quasiment toutes issues de familles qui ont fui des pogroms de la Russie tsariste et qui faisaient le lien avec ce qui se passait en Palestine par leur opposition au colonialisme, ou de personnalités comme par exemple Abraham Sarfati, qui était un des plus gros opposants à Hassan II au Maroc, qui a toujours écrit sur son identité judéo-arabe. Je pourrais aussi vous citer Ilan Halevi, qui était ministre aux côtés d'Arafat au sein de l'OLP, et j'en passe. Et ces identités juives aujourd'hui sont en danger pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait on voudrait nous faire croire que tous les juifs soutiennent Israël, et effacer justement ce pan de mémoire que je vous ai hyper vulgarisé en l'espace de quelques secondes. La deuxième chose, c'est que le processus de racialisation qui est mené par l'État envers les juifs et les juifs n'est pas le même que celui de personnes qui subissent un racisme d'État. Je m'explique. Il y a un concept chez nous qu'on appelle le philosémitisme, qui serait l'inverse de l'antisémitisme. La négrophobie, engendre de la négrophilie. Il y a des gens qui sont fascinés par les corps noirs de manière hyper hyper malsaine, qui les fétichisent en leur donnant des attributs spectaculaires, etc. Au même titre que les orientalistes, qui étaient des islamophobes notoires, avaient également une espèce de fascination malsaine pour les populations arabes qu'elles jugeaient comme archaïques, mais qu'elles présentaient aussi parfois sous des traits qui seraient resplendissants. L'image caricaturale serait par exemple une femme qui porte un hijab d'un côté et qui est danseuse du ventre. Bon, bah le philosémitisme, sans parler du philosémitisme d'État, c'est quelqu'un qui va par exemple fétichiser ma judéité au moment où je vais donner mon prénom, en mettant la main sur l'épaule en me disant mais c'est horrible ce que vous avez vécu, moi j'adore les juifs. Alors que je n'ai pas envie qu'on m'aime à cause de ce que je suis. Le philosémitisme d'État, c'est autre chose. C'est une logique de concurrence mémorielle dans laquelle on va faire des juifs et des juifs une minorité d'exception, c'est-à-dire limite une minorité modèle, qu'on va justement opposer aux musulmans et aux gens issus de l'immigration postcoloniale et autres hordes de barbares venus grand remplacer, islamiser l'Europe. Hein, c'est un petit peu ce qui est sous-entendu dans ces propos. Et nous, c'est justement à un rang où intrinsèquement, on appartiendrait au corps républicain. Et pour citer une personne que j'imagine la plupart des auditrices et des auditeurs de Radio Campus adorent, c'est-à-dire Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, il y a une petite phrase qui me vient en tête quand il dit que toucher un juif, c'est toucher un flic, c'est toucher la République. Bon, au-delà de l'affront que ça représente quand on connaît le passé de la police française et celui du coup de nos grands-parents qui ont porté l'étoile jaune pour certains d'entre nous, ce qu'il dit dans cette phrase en fait, c'est que peu importe le degré de communautarisme, de volonté d'assimilation ou d'intégration ou non, les juifs feraient automatiquement partie d'un corps qui s'appelle la République et qui en plus est assigné généralement par l'État à soutenir Israël. À soutenir Israël, ce qui engendre un jeu, je pense, concurrentiel, notamment vis-à-vis de personnes qui, elles, vont se faire, par exemple, contrôler. Moi, si je porte une kippa, je pense pas que je vais me faire contrôler par un policier de la même manière que si je suis noir ou arabe, où je peux me faire buter en allant chercher du pain en bas de chez moi sans pouvoir obtenir justice. Et les conditions de cet effacement aussi, c'est qu'il y a une volonté de vouloir pas réellement nous blanchir, parce que sinon, en fait, on parlerait pas de juifs et de blancs, on serait directement lié à la catégorie des blancs, mais à vouloir faire de nous, en fait, une espèce d'avant-garde pour faire avancer un agenda réac au nom du progressisme et plus généralement de la lutte anti-racisme en disant ben nous on se bat contre le racisme parce qu'on lutte contre l'antisémitisme alors que c'est la pire manière de faire. Et puis aussi derrière une manière de se dédouaner en oubliant que bon, l'antisémitisme est une conception occidentale avec une littérature abondante qu'on retrouve encore aujourd'hui jusque dans les FNAC et même avec des ministres ou des gens qui écrivent dans le Figaro qui vont nous citer Barrès, qui vont nous citer Maurras, des concepts comme l'antifrance. Je veux dire, on a un parti politique qui s'appelle Reconquête dont le projet se réfère littéralement historiquement à l'éradication de l'islam et du judaïsme et un président qui a gracié Pétain ou une assemblée nationale qui rend hommage à un néo-nazi et une recrudescence des idées conspirationnistes qui a été sans précédent pendant l'affaire Epstein. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de se focaliser 5 jours sur une blague dont on peut juger la qualité douteuse si on veut, de Mélenchon sur la prononciation d'Epstein et d'Epstein, alors que tous les médias l'avaient fait précédemment. Ce qui veut dire qu'en plus, ces gens s'en foutent, pour moi en tout cas, de la lutte contre l'antisémitisme.
On va tout de suite passer à une pause musicale et on va revenir et on parlera un peu justement de la proposition de loi Adam. Thank you.
Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours avec Yonatan Rufzan, militant et cofondateur du collectif Tzedek, collectif juif antifasciste et décolonial. Yonatan Rufzan, on va en profiter de cette deuxième partie pour revenir sur toute la séquence qu'il y a eu autour de la proposition de loi Yadan, parce que ça a quand même créé beaucoup de tensions. Et donc cette proposition de loi a été retirée avant son passage à l'Assemblée nationale en avril. Elle était en présentée déjà depuis 2024. Alors c'est, je pense, plus ou moins en réaction aux attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et à la montée de l'antisémitisme qui a accompagné. Mais c'est aussi parce qu'il y avait une définition de l'antisémitisme qui avait été adoptée par le Parlement en 2019 et 2021, en deux temps en fait, définition de l'IHRA, donc l'Institut de la mémoire, pour la mémoire de l'Holocauste, qui visait en gros à englober la négation de l'État d'Israël dans l'antisémitisme. Je le fais vraiment de façon très simplifiée. Et donc c'était, le but était de traduire ça en cadre juridique. Alors cette proposition de loi ne citait pas l'État d'Israël. Elle citait... Je vais peut-être détailler les quatre articles, donner un peu la teneur des quatre articles. Le premier article avait pour but de punir la provocation, même implicite, à des actes terroristes et de sanctionner leur apologie, leur minoration ou leur banalisation, outrancière. Donc il inclut une aggravation des peines liées à l'apologie du terrorisme. Voilà, donc premier article plutôt sur la question de l'apologie du terrorisme. Deuxième article qui crée un nouveau délit consistant en le fait directement ou indirectement d'appeler à la destruction ou à la négation de l'existence d'un État. Donc c'est dit d'un État, hein, c'est pas précisé lequel. L'article 3 pour étendre la possibilité à des associations antiracistes de se porter partie civile lors d'actes racistes. Et article 4, attendez, je le retrouve, qui modifie, alors elle modifie la loi de 1881 sur la liberté de la presse, donc une loi assez fondamentale de la République française, pour préciser les délits de contestation de l'existence de crimes contre l'humanité. Voilà, donc punir la négation de l'existence d'un État, punir la négation ou la minoration de crimes contre l'humanité. Et j'oublie des choses, mais je ne vais pas tout redire. Est-ce que les attaques contre cette proposition de loi en disant qu'elle visait à criminaliser la solidarité envers la cause palestinienne vous paraissent justifiées?
Absolument. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a une première loi qui a été adoptée dans l'enseignement supérieur, que nous, on appelle la loi Berger. Au même titre que là, on parle de loi Yadan, mais on pourrait parler de loi Yadan Hollande-Gedge, hein, parce que elle a été aussi soutenue par des gens du PS, bon, en plus de l'extrême droite. La première chose, je reviens sur cet élément, parce que pour moi, il me paraît fondamental. Il y a justement eu l'adoption de cette définition, qui est de l'antisémitisme, qui s'appelle la définition de l'IHRA, qui a donc été stipulée au nom d'une première loi de lutte contre l'antisémitisme dans les facs, qui a été adoptée il y a à peu près un an, hein, c'était en juin 2025. Et ça, c'était clairement une réponse au mouvement de solidarité envers la Palestine. Je précise qu'il y a une autre loi, que la loi sur l'IA, dans la loi sur l'IHRA, il y a au moins 4 ou 5 clauses qui reviennent sur la critique des structures de l'État d'Israël. Là, on ne parle pas forcément de sa négation, mais tout simplement le fait de dire, bon, bah, les structures de l'État d'Israël sont racistes, le sionisme est une idéologie nationaliste, suprémaciste, c'est une transposition de la suprématie blanche, donc c'est une forme de racisme. Et d'autres clauses qui portent plus particulièrement sur la critique de l'État d'Israël. Il y en a 7 sur les 11 exemples qui sont donnés dans la définition de la loi sur l'IHRA. Nous, on préfère celle de Jérusalem, qui est celle des chercheurs, qui reconnaît par exemple le droit à appeler à boycotter, désinvestir et sanctionner un état génocidaire d'apartheid qui poursuit une colonisation depuis 1948. Cette loi a visé non seulement le mouvement étudiant, mais aussi le corps enseignant qui serait susceptible d'être solidaire avec ses élèves, et plus grave encore, les chercheuses et les chercheurs qui vont devoir faire un travail de recherche qui sont pour certains qui est en cours dans la documentation d'un génocide qui est en cours à Gaza. Cette loi est arrivée juste après. Il faut savoir que même si Israël n'est plus cité explicitement, c'est l'État qui a été donné comme exemple par Caroline Adam pour justifier sa loi. Il y a certes un certain nombre de choses dans cette loi qui ont été invalidées par le Conseil constitutionnel, et donc ils ont réussi à s'adapter, mais on sait très bien que dans son application, les personnes qui allaient être les premières à être visées auraient été les personnes qui critiquent Israël et pas celles qui critiquent par exemple qui critiquent la Palestine, dans la mesure où certaines personnes qui sont vraiment des sionistes radicaux remettent en cause l'existence de l'État de la Palestine. Mais ce qu'il y a de perfide, ce qu'il y a de particulièrement perfide derrière, je pense, c'est aussi la loi, c'est aussi de, en fait, tout simplement de pouvoir critiquer un État-nation. Je veux dire, moi je critique l'État-nation d'Israël, mais je supporte pas l'État-nation états-unien. Je suis très critique des États-nations de manière générale, et je pense que dans une finalité décoloniale, l'idée c'est quand même de décentraliser, de régionaliser, de provincialiser et d'arriver à la fin des États-nations, bon, ce qui aurait pu être répréhensible en appliquant cette loi. Et c'est surtout par qui elle est portée. Je veux dire, elle est portée par Caroline Adam, qui est députée de l'étranger en Israël, dans laquelle il y a quand même une clause qui dit que mettre à plat plusieurs génocides, c'est déjà une forme de négationnisme, ce qui est quand même extrêmement grave, hein, ce qui est quand même extrêmement grave. Et il faut voir l'agenda politique en fait que ça porte. Sa volonté, c'était de museler le soutien envers la Palestine. Et je tiens à rappeler que d'ailleurs, même nous, en tant que juifs et juives, on aurait pu ne pas être épargnés par cette loi, dans la mesure où nous considérons que les fondements de l'État d'Israël sont racistes, et donc que ces structures coloniales, étatiques, doivent être absolument détruites, comme c'est le cas pour d'autres pays. Et nous, c'est au nom de notre judaïté, donc quelque part, nos judaïtés deviendraient illégales, même si je pense qu'on n'aurait pas été mis sur le devant de la scène et été les premières personnes inculpées. Je veux dire, un Palestinien qui se réfère à l'histoire et qui dit « je suis pour la destruction d'un État, en fait, qui m'interdit de pouvoir revenir chez moi » à cause de la loi sur le retour, par exemple, ou qui tout simplement dit « bah oui, les structures de l'État de l'État colonial sont génocidaires, et ça permet d'expliquer qu'il y a un génocide aujourd'hui en cours, mais dont l'intention n'était pas portée par les kahanistes et l'extrême droite et Netanyahou, mais par les premières orgas de gauche étaient au pouvoir. Oui, clairement, cette vision de l'histoire aurait pu être mise en cause, ce qui est une porte d'entrée vers le révisionnisme, et littéralement une interdiction pour les Palestiniennes et les Palestiniens d'affirmer tout simplement leur identité et le fruit de leur histoire.
Alors, Caroline Adam aurait dit, j'avoue, je ne l'ai pas vérifié, je ne suis pas allé à la source, elle aurait dit dans une interview que cette loi pourrait permettre, elle avait dit ça dans une interview à un média israélien, je crois, que cette loi pourrait permettre l'interdiction du slogan « De la mer au Jourdain ».
Oui.
Slogan qui est utilisé beaucoup par le mouvement palestinien, le mouvement de soutien à la cause palestinienne, pour dire que la Palestine n'est pas découpable en morceaux et qu'elle s'étend de la mer au Jourdain.
Oui, alors notamment ça, voire peut-être même Free Palestine, je ne sais pas jusqu'où aurait pu aller cette loi, puisque appeler à la libération de la Palestine, c'est forcément appeler à la libération de la Palestine dans son ensemble. Bon, déjà, il faut voir ce que Caroline Adam a dans sa tête. Je ne sais pas si elle s'imagine sincèrement, ou comme Maya Rabif, qu'elle fasse semblant, que des personnes qui disent « bon bah nous on est pour une Palestine libre de la mer au Jourdain », c'est l'idée de jeter les Israéliens et dans leur tête les Juifs dans la Seine. Moi, je suis pas Israélien, je vais pas dans la mer. Moi, je suis pas Israélien, je vais pas être jeté dans le fleuve ou dans la mer. Néanmoins, il faut des débouchés politiques. Je vais pas rentrer sur la question de la solution à un ou deux États parce que je pense qu'elle appartient avant tout au peuple palestinien et à la population qui est opprimée. Néanmoins, avoir le droit de revendiquer une Palestine libre dans laquelle pourraient être inclus les Juifs ou les Israéliens actuels dans un projet politique de réunification, bon, c'est quelque chose qui s'entend. C'est peut-être même l'inverse de ce qu'elle sous-entend, et plutôt justement l'idée d'un devenir commun, même si ça peut être choquant pour des Palestiniens de dire ça, dans la mesure où on n'a pas à dire aux Palestiniens ce qu'ils comptent faire avec leurs bourreaux et une population qui les génocide. Il y a probablement tout un tas d'autres choses qui sont réprimées. De toute façon, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'État n'a pas attendu la loi Adam pour dégainer un arsenal répressif terrible au nom de l'instrumentalisation de l'antisémitisme et de la lutte contre le terrorisme. Je sépare un petit peu les deux, même si elles vont de pair, dans la mesure où c'est quand même la première fois où on a autant d'élus, hein, de parlementaires qui sont convoqués. Bon, Rima Hassan, c'est logique que ce soit la première cible puisqu'elle est palestinienne et que le racisme palestinien est une extension à la fois de l'islamophobie et du racisme anti-arabe qui est héritier d'un pays qui n'a jamais littéralement fait son travail de mémoire sur l'Algérie et qui n'a jamais vraiment digéré. Hein. Il y a quand même cet aspect-là, plus le fait que le mouvement de solidarité envers la Palestine est un lieu de politisation, notamment pour des gens issus de l'immigration postcoloniale et des quartiers populaires qui sont pas forcément justement des gens issus des milieux gauchistes de base. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait on assiste quand même vraiment à une répression qui est sans précédent. Donc, par exemple, ont été ciblés certains syndicalistes comme Jean-Paul à la CGT Nord, comme Anas Kazib qui est aussi militant chez Révolution Permanente et syndicaliste. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'on atteint ce degré-là, en tout cas d'accusation d'antisémitisme d'un côté, ou en tout cas d'apologie du terrorisme. Et je pense qu'on aurait tort de penser que ça s'arrêtera à la question de l'instrumentalisation de l'antisémitisme et de la Palestine. Ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place un certain nombre d'outils et un arsenal répressif, qui a été précédé avant par toutes les lois d'exception, les couvre-feux, les états d'urgence, etc., qui tend juste en fait à se multiplier, à se mobiliser. Et si jamais le Rassemblement National arrive au pouvoir, imaginez ce qu'ils vont en faire quand on voit déjà ce que le bloc central de droite est capable de faire en ayant pouvoir.
Alors, je rajouterais que la proposition de loi, pour l'instant, elle a été retirée, oui. Notamment parce que quand même un certain nombre de députés centristes semblaient s'en être désolidarisés au MoDem ou à Liot. Il y avait aussi, je relis hein, ce que j'avais lu le premier article, pour but, la loi aurait pour but de punir la provocation, entre guillemets, même implicite, à des actes terroristes. Donc on introduisait la notion d'implicite, et puis un peu plus loin, il y avait la notion d'indirect. L'article 2 crée un nouveau délit consistant en le fait, directement ou indirectement, d'appeler à la destruction ou à la négation de l'existence d'un État. Donc on introduisait ces notions d'implicite et d'indirect dans la loi, ce qui pouvait quand même être extrêmement dangereux, il me semble, pour la liberté d'expression.
C'est dangereux pour la liberté d'expression, puis en fait même la catégorisation de terrorisme, on sait très bien qu'elle pose énormément de problèmes quand on parle de lutte armée et de résistance décoloniale, dans la mesure où officiellement quasiment toutes les organisations politiques palestiniennes, en tout cas leurs branches armées, sont considérées comme terroristes, y compris des organisations marxistes, des organisations communistes, des organisations de gauche démocrate, etc. Et d'ailleurs qui sont déjà durement réprimés sur le sol français, et évidemment par extension encore plus en Palestine ou actuellement au Liban dans les camps de réfugiés. Cette catégorisation d'implicite, je pense que ça fait partie des raisons en fait aussi pour lesquelles les centristes se sont rétractés, dans la mesure où Dans l'application, ça aurait été une porte ouverte encore plus au n'importe quoi qu'on a, c'est-à-dire que bon, bah, des délits d'apologie de terrorisme, en réalité, parmi les gens qui sont convoqués, il y en a aussi beaucoup pour lesquels ce sera sans suite, hein. c'est juste un moyen de pression, même si bon, bah, pour certaines personnes, ça a des conséquences dramatiques dans leur vie. Moi, je pense à Omar d'Urgence Palestine, dont on a, par exemple, gelé les avoirs, et qui comparaissait pour la première fois hier, et que, dont je tiens à saluer et affirmer le combat au nom de Tzedek. Mais je pense qu'on aurait tort aussi de s'imaginer que ça va se cantonner et s'arrêter à la loi Yadan, c'est-à-dire que ce genre d'initiatives et de lois vont se multiplier à moins qu'on ait un projet de gauche alternative dont on aura les résultats d'ici un peu moins d'un an aux élections. Et s'imaginer que le Bloc central est déjà capable de faire ça, ça nous met aussi un peu la puce à l'oreille de ce qui pourrait se passer si l'extrême droite s'empare, ne serait-ce que de ces lois-là, et de ce qu'ils seraient capables de faire eux-mêmes en allant au pouvoir. Je veux dire, on parle vraiment d'une transformation de la société dont on n'a pas vraiment idée, mais en observant ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis et la rapidité avec laquelle une forme de néofascisme est en train de se mettre en place, bon, ça devrait quand même nous mettre la puce à l'oreille.
Alors, là, en tout cas, il semble être question d'un projet de loi présenté par l'exécutif. Donc, on va suivre ça. Je ne sais pas s'il va réellement être présenté en juin ou pas. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus.
Ça a l'air assez compliqué. Pour le moment, ils ont auditionné tous les groupes et j'ai vu que la France Insoumise a accepté d'y participer. Mais je tiens à dire qu'il y a une PPL proposée par Daniel Obono, hein, qui est quand
PPL,
même.
PPL, c'est proposition de loi, ça veut dire que ça émane de l'Assemblée nationale, alors que projet de loi, ça émane de l'exécutif. Hein, je précise.
C'est ça.
Donc là, il y a aussi une proposition de loi qui viendrait donc de la France Insoumise.
De la France Insoumise, plus précisément, qui est portée par Daniel Obono, à qui on doit en fait une partie la diffusion des idées antiracistes, hein, qui a toujours été appris à bras le corps la question de toutes les formes de racisme et qui a quand même un certain nombre de connaissances sur le sujet, et donc de Daniel Obono et Mathilde Panot, parce qu'elle est présidente du groupe parlementaire, qui propose une vraie proposition de loi alternative à celle de la loi Yadan, avec la reconnaissance de la déclaration de Jérusalem, dans laquelle elle recontextualise aussi l'histoire de l'antisémitisme en la mettant au même niveau que les autres formes de racisme, en prenant ses singularités à part entière. Et à ma connaissance, c'est la première fois, en fait, en réalité, que quelqu'un prend ce sujet à bras-le-corps. Donc, ces accusations qui portent sur l'antisémitisme, etc., sont non seulement fallacieuses, mais on a tendance aussi à ne pas voir les autres formes de racisme, justement parce qu'il y a cette logique de concurrence mémorielle, et du coup, on oublie que, quoi qu'on pense, hein, d'une solution réformiste ou révolutionnaire, là, il y a quand même une échéance à venir, et que dans cette échéance, actuellement, la France Insoumise est la seule organisation politique actuellement à budgéter et à vouloir mettre en place un programme antiraciste de fond contre toutes les formes de racisme, et que du coup, la lutte contre l'antisémitisme, d'un point de vue institutionnel, passe par là. Elle se suffira pas par des propositions de loi mais plus par un changement de société qui passe aussi par la rue, qui passe aussi par d'autres initiatives. Néanmoins, c'est la première fois, c'est un sans précédent, donc je pense qu'il faut encourager, surtout visibiliser la proposition alternative à la loi Yadan qui est portée par Daniel Obono.
Alors, juste avant de passer à la chronique d'Emeric et ensuite de conclure avec une troisième partie, je voulais essayer de faire une articulation. Je vais essayer de la faire. En lisant votre manifeste et en cherchant des informations quant à la proposition de loi Yadan, il y a quelque chose qui est revenu. Des deux côtés, à chaque fois, c'était un refus d'une assimilation collective des Juifs à l'État d'Israël. Je m'explique, c'est que donc, vous l'avez un peu dit, vous refusez le fait que les Juifs soient considérés comme tous sionistes et tous défenseurs de l'État d'Israël. Du côté de la loi Yadan, il y a le fait... Et je crois aussi de la définition de l'IHRA qui avait été retenue, une définition de l'antisémitisme, qui était le fait de refuser qu'on s'en prenne aux Juifs pour s'en prendre à l'État d'Israël et donc refuser de considérer les Juifs comme collectivement responsables de la politique d'Israël. Donc ça m'a troublé. J'ai retrouvé des deux côtés cette volonté de non-assimilation collective des Juifs à Israël. Je ne sais pas si...
Nous, malheureusement, on ne va pas se mentir, on est extrêmement minoritaire. Et aujourd'hui, une partie de la centralité du monde juif, qu'on le veuille ou non, est incarnée par l'État d'Israël. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une négation à prouver que d'autres choses existent. Aujourd'hui, la quasi-totalité des synagogues, des organismes pseudo-représentatifs, même si malheureusement elles le sont encore un peu, ont des liens directs avec l'État d'Israël et sa propagande. C'est indéniable. Hein. Nous, un exemple tout bête, on est... On avoisine, enfin même on a dépassé les 300 adhésions chez Tzedek. On est très peu à avoir des parents antisionistes, hein, c'est de l'ordre d'une poignée de main. Et sur cette poignée de main, parmi ceux qui se revendiquent comme antisionistes ou comme non-sionistes, il y en a en fait tout simplement qui s'en foutent de la politique. Donc on peut pas faire non plus comme si la question de l'État d'Israël revenait régulièrement sur la table, y compris pour des juifs qui sont sécularisés, qui n'ont pas de pratiques religieuses, etc. Par contre... Ce qu'on dit, c'est qu'une autre forme de judéité est possible et que cette assignation est une négation de nos identités, de leur passé, en rappelant que le sionisme est actuellement très largement hégémonique chez les juifs en France, que c'est de moins en moins le cas aux États-Unis et que c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Les premières personnes à s'être opposées au sionisme étaient des juifs et des juifs. Je conseille le livre de l'Union juive française pour la paix sur le sujet, Antisionisme, une histoire juive.
Je précise qu'on a fait notre émission de septembre là-dessus, donc je renvoie les auditeurs aussi à notre émission de septembre avec Michel Ciboni.
Super. Bon, voilà, donc du coup, je vais pas épiloguer là-dessus. Sauf qu'il y a quelque chose d'hypocrite dans la mesure où la critique d'Israël est aujourd'hui assimilée forcément... Enfin, l'opposition à l'État d'Israël aujourd'hui est justement considérée comme de l'antisémitisme par les personnes qui sont au pouvoir et généralement un champ politique qui va de la gauche libérale à l'extrême droite. À l'extrême droite d'un côté. Et donc... Affirmer ça d'une certaine manière, c'est aussi se dédouaner de sa part de responsabilité là-dedans, d'avoir justement fait des juifs un soutien conditionnel d'Israël. Même si moi je pense que c'est important de rappeler qu'on est très très minoritaire et de dire qu'en fait juste tous les juifs sont pas des sionistes, c'est pas quelque chose de suffisant. Ce qu'il faut aussi essayer d'expliquer, c'est le cheminement qui pousse un certain nombre de juifs et juifs à adhérer à ça, à s'imaginer que par exemple une personne qui porte un kéfier aurait dans sa tête le projet d'exterminer les juifs dans les camps. Malheureusement, certaines et certains y croient. Certains s'imaginent vraiment que Rima Hassan a envie d'exterminer tous les juifs. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est des choses qu'on voit, nous, au sein des communes, et qu'il faut aussi visibiliser. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'aborder pour être le plus honnête possible politiquement.
Bien, merci, Yonatan Rufzan. On va parler tout de suite de quelqu'un de très important dans la... question décoloniale, et on a utilisé ce mot décolonial car vous l'utilisez pour vous définir à Tzedek. On va parler de Frantz Fanon, on va écouter la chronique d'Emeric.
Merci Pascal. Alors, né en Martinique en 1925, Frantz Fanon est issu de la bourgeoisie métisse. Il reçoit son instruction où Aimé Césaire enseigne à l'époque. En 1943, donc à 18 ans, il rejoint les forces françaises de libération pour combattre en France et est envoyé quelques semaines en Algérie. Il subit de plein fouet le racisme militaire et civil. Une fois la guerre finie, donc il rentre en Martinique pour passer son bac et obtient une bourse afin de poursuivre des études de médecine à Lyon où il se spécialise en psychiatrie. Il publie « Peau noire, masque blanc » en 1952, ouvrage dans lequel il analyse les préjugés racistes dans le monde colonial et questionne les notions d'identité, d'assimilation, de racisme à l'encontre des personnes noires à travers son expérience d'antillais, né en Martinique et installé dans l'Hexagone. D'ailleurs, pour précision, la Martinique était une colonie française jusqu'en 1946. Il écrivait ainsi « Chaque fois qu'un homme a fait triompher la dignité de l'esprit, chaque fois qu'un homme a dit non à une tentative d'asservissement de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte. » Alors, en 1953, il devient médecin-chef à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Confronté aux injustices de la société coloniale, comme aux névroses des populations qui les subissent, Il élabore des méthodes pour traiter les effets psychologiques du système colonial sur les colonisés. Donc notamment la dépersonnalisation et la déshumanisation. Quand la guerre d'Algérie éclate, il soigne donc les soldats français le jour et les combattants du Front de Libération Nationale la nuit. En 1956, donc, il rejoint le FLN et est expulsé en Tunisie par l'ordre colonial donc en 1961, d'où il écrit « Les damnés de la terre », préfacé par Jean-Paul Sartre. Il oppose la violence du colonisateur à celle du colonisé. Donc, le colonisateur utilise la violence de façon systémique pour contrôler et dominer les populations colonisées afin de s'enrichir. Le colonisé, lui, utilise la violence pour libérer sa communauté et sa culture. Donc la violence est une étape nécessaire pour la libération, mais pas un système de domination, de ce point de vue-là. Frantz Fanon est aujourd'hui davantage connu aux États-Unis qu'en France pour sa pensée décoloniale. Je conclurai en citant la fondation Frantz Fanon. Fanon, cet insoumis, ce rebelle qui lutte tenacement et sans faille contre la domination exercée par les puissants sur les faibles, nous éclaire aujourd'hui à propos de l'articulation fondamentale entre d'une part le droit à la rébellion devant un système social, politique et économique qui plonge le monde dans le désordre et d'autre part une colonisation d'un nouveau type. C'est là l'actualité de la pensée de Fanon qui connaît aujourd'hui un nouvel essor dans bien des pays du monde, même si la France reste curieusement à l'écart de ce mouvement.
Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
Merci Émeric, et c'est une petite réparation aux voix du crépuscule parce qu'on n'avait jamais vraiment consacré de temps à Frantz Fanon. Je me disais, Jonathan Ruzan, ça me paraissait important de le présenter puisque justement on a utilisé ce mot décolonial. Est-ce que Frantz Fanon fait partie des penseurs qui inspirent Tzedek ou pas?
Je pense que Fanon inspire toutes les personnes qui se situent dans la décolonialité, le mouvement antiraciste et le mouvement anti-impérialiste. Absolument. Enfin, je veux dire, son rôle, il est fondamental, il est majeur. Et je pense même que l'émergence en elle-même de ce qui va devenir plus tard le mouvement décolonial, parce que ce serait, anachronique de le présenter comme ça à l'époque, doit énormément aux écrits de Fanon et à d'autres. Mais que je pense que sa manière justement d'interpréter et le colon et le colonisé a été une porte d'entrée pour un certain nombre de militantes et de militants qui a eu une résonance qui a influencé plus tard tous les mouvements décoloniaux qui peuvent être d'aspiration panafricaine, d'aspiration entre guillemets latino-américaine, puisque c'est quand même de là que viennent la plupart des mouvements décoloniaux. Et puis après, plus proche de chez nous, ce qui s'est conceptualisé dans les années... à partir vraiment du milieu des années 2000 et des années 2010, même si s'il y avait des prédécesseurs, et qu'on appellera le mouvement décolonial français, puisqu'il faut quand même rappeler que ces théories sont extrêmement récentes en France. Il a fallu les créer aujourd'hui. Tout le monde parle d'islamophobie et le mot blanc n'est plus un tabou, mais faut quand même se rappeler qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, toutes tendances confondues, que ce soit anarch, trotsko, enfin au sein de la gauche, coco, gauche radicale et tout ce que vous voulez, ces mots créent directement un sentiment d'hostilité. Ce qui, je dis pas ça justement pour ressasser le passé de manière abougrie, sachant qu'en plus on a eu des soutiens qui étaient très minoritaires au sein de ces mouvements, mais plutôt pour se rendre compte du chemin qui a été parcouru depuis. Et ça, bon, on doit à la conception d'un mouvement décolonial français qui a été influencé par les théories justement d'un petit peu partout dans le monde et forcément par Frantz Fanon.
Alors, ça, pour moi, ça faisait aussi écho, je vais revenir du coup sur la proposition de loi Adam dont on a parlé dans la partie précédente.
La fameuse citation. Je pense
que ça va être ma dernière question parce qu'après il va être l'heure. Ouais. Mais dans le premier article de la proposition de loi Adam, je le lis, inclut une aggravation des peines liées à l'apologie du terrorisme en proscrivant la présentation d'actes terroristes comme des actes de résistance. Alors là, je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de penser au 7 octobre 2023 et toute cette controverse sur la question de est-ce que c'est un acte de résistance, est-ce que c'est un acte terroriste, est-ce que c'est un acte antisémite, est-ce que c'est un pogrom. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions autour de la façon de le qualifier. Je crois que vous, à Tzedek, vous parlez de crime de guerre, mais aussi que vous refusez la qualification d'antisémite de cet acte. Bah oui. Est-ce que pour vous, c'est un acte de résistance ?
C'est un acte de résistance dans lequel il y a eu des crimes de guerre, c'est indéniable. Ben, je veux dire, c'est... voilà, je veux dire, à un moment, lorsque des soldats israéliens se font attaquer par des organisations politiques comme le FPLP, pour moi, bon, bah, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est une forme de résistance. Dans toutes les luttes armées et dans toutes les guerres, de manière générale, la guerre, c'est jamais propre. Hein. Ça engendre des viols, ça engendre des VSS, ça engendre des trucs qui sont épouvantables. Mais par contre, le caractère antisémite qu'il peut y avoir là-dedans, bon, je précise, je donne l'exemple du FPLP. C'est une organisation qui est considérée comme terroriste comme l'Europe. Mais je veux dire, son acte là, de résistance, ça a été de s'en prendre à une antenne de l'armée israélienne, me semble-t-il. Et puis, je veux dire, de manière générale, le caractère antisémite, moi, je pense pas que les Palestiniennes et les Palestiniens auraient réagi différemment si les colons avaient été anglais, comme ça avait été le cas précédemment. Si les colons avaient une autre origine, moi, je pense pas qu'il y ait un caractère racial qui soit imputable aux populations palestiniennes. Encore plus, sachant qu'elles sont opprimées elles-mêmes par un État qui est racialiste, si vous voulez. Donc, parler de pogrom, pour moi, c'est quand même... en dehors du fait que ça ne correspond pas à la définition qu'il y a d'un pogrom, mais ça, c'est une... C'est presque une chose annexe. Parler d'antisémitisme, en fait, parce que des populations... Ouais, mais bien sûr, je sais. Mais parce que des populations juives ont été ciblées par... parce que des populations qui sont juives, hein, certes, ont été ciblées par des Palestiniens, je pense que c'est tourné à côté du vrai sujet qui est le combat contre la Palestine. Et je rappelle que le 7 octobre aurait très bien pu être évité d'une certaine manière, tout simplement avec une autre politique de la part de l'État oppresseur. En fait, cette réaction a été causée par l'oppresseur. Donc non, c'est pas de l'antisémitisme. Les personnes n'ont pas été ciblées en tant que juives ou juives, mais comme appartenant à un État colonial. Même si dedans il y a des civils, même si la guerre c'est jamais propre, je pense qu'on ne peut pas affirmer ça.
Bah merci Yonatan Ruvzan. On va terminer là-dessus. Il est 20h59 et vous êtes sur Radio Campus Paris. C'était Les Voix du Crépuscule. Bientôt c'est Map Monde. On se retrouve, mais je ne sais pas encore exactement quand, parce que la date du jeudi 4 juin n'est pas confirmée, donc on va avoir une émission en juin. On vous précisera la date et on espère parler d'un sujet tout autre, un peu plus léger quand même, le football.
C'est bien aussi. Hein. Allez, Red Star.